Est-ce qu'il y a des questions? Une, deux, trois. En une.
Merci, bonjour. Jean-Paul Filiot, Université Lyon 1, SP, enseignant-chercheur. Je suis du côté des sciences sociales, sociologie, anthropologie, et je suis très intéressé par une question à Chongyang. Alors peut-être Brigitte,
Brigitte.
Traduira. Je pourrais le faire en anglais, mais comme il y a une ressource qui a peu servi, autant qu'elle, qu'elle sert tout à l'heure. C'est ce que je vais faire, je la pose en français. Donc c'est la question de la formation à la recherche. C'est-à-dire en Chine, s'il y a ce temps pour chercher, est-ce que le chercheur apporte un protocole d'observation et l'enseignant se sert de ce protocole et fait de la recherche à travers cet outil? Ou est-ce qu'il y a au préalable une formation à la recherche de telle sorte que les enseignants ont peut-être une manière de regarder la réalité qui peut leur être propre?
Ah non.
Non, non, mais...
Il me semble qu'il n'y a pas de
chercheurs.
Il y a
oui.
Que des professeurs.
Mais, oui, mais le Brigitte,
est-ce qu'il y a une formation à la recherche?
Yes. They in China nowadays many schools when they employ the teachers, they ask for the teachers must have the diploma of a master diploma. So the teacher students will be trained during their study in their master's studies, but also. For the in-service teacher, there will be some guidance for them. The guidance can come from the cooperation with the universities or some guidance from the education, the upper, the senior leader. In China, the government will publish we post some documents to give the students some guidance, and also many other ways, I think.
Donc, je pense que votre niveau de compréhension de l'oral vous permet d'avoir compris l'essentiel. Hein. C'est bon. C'est vrai que ben, ils ont un niveau master comme chez nous avec une formation à la recherche, mais après aussi dans leur formation continue, il y a des recommandations en lien avec le gouvernement, etc. Donc c'est un processus qui est quand même continu en termes de développement.
Je voudrais ajouter deux choses. C'est le rôle des chefs d'établissement. Chef d'établissement qui ont une mission particulière et qui ont une formation pour cela, pour favoriser ce dispositif de travail collectif des enseignants orienté par des questions.
Et ce que j'ai vu pendant la journée où on a été dans un établissement, il y avait un projet spécifique, c'est comment engager les élèves dans une démarche de recherche. Et il y avait deux cours contrastés qu'on est allé observer avec tous les professeurs de l'établissement. Le premier cours, le professeur utilisait une grande ardoise blanche sur laquelle on efface, et qui permet aux élèves de travailler ensemble et d'afficher le résultat au tableau. Et un deuxième dispositif où c'était l'utilisation de choses plus... de rétroprojection, de vidéoprojection, etc. Donc des dispositifs assez contrastés. Et donc déjà le choix de travailler sur deux dispositifs contrastés, c'était assez intéressant. Puis ensuite, il y a eu un débriefing avec un professeur d'un autre établissement qui était plus avancé dans cette réflexion. Et donc, vous voyez, le chef d'établissement qui monitore cela, le choix de dispositifs assez subtils de travail, le jeu sur différents niveaux d'expertise des enseignants, ça assure au dispositif une réelle vitalité et une productivité.
Oui, Luc Ria, Luc Trouche, bonjour. Simplement pour revenir sur l'anecdote que tu as en tout cas formulée tout à l'heure sur le désamour ou la défiance de la chef d'établissement sur Garcia Lorca, qui est juste deux rangs devant moi. Et non, mais je trouve que c'est assez symptomatique quand même de la nécessité, lorsqu'on construit un Léa, de construire effectivement cette intelligibilité, d'arriver à créer ce climat de confiance et de comprendre quelles sont les voies médianes pour qu'à la fois les enseignants, les chercheurs, mais aussi l'institution au sens large, comprennent ce qui se joue. Et c'est vrai qu'avec Magdalena, dans un premier temps, il y avait une sorte de défiance par rapport à l'urgence de toutes les autres problématiques qui pouvaient apparaître dans l'établissement, et qu'il a fallu en quelques mois la convaincre de l'intérêt ou de l'utilité pour ses enseignants, mais aussi par rapport à son propre projet. Ce qui pose bien aussi la question de savoir qu'on ne peut pas travailler à la marge des chefs d'établissement, qu'il faut directement les rendre partie prenante. Et la meilleure situation, enfin c'est ce qui m'a fait assez rire dans la situation, c'est que Magdalena a accepté d'être filmée elle-même dans un travail de professionnalisation et de constitution de ressources pour comprendre et travailler en formation sur l'activité des chefs d'établissement. Elle a vu la pertinence de ce type de méthodologie et qu'elle a pu prendre conscience elle-même de ce potentiel de professionnalité à partir de ce montage vidéo, etc. Alors, ça ne peut pas arriver dans chaque établissement comme ça, mais ça montre bien qu'il y a de sa part aussi une sorte de conversion du regard par rapport à l'usage même des outils de la recherche, qui sont peut-être au départ très, très décalés, mais qui peuvent être retraduits, qui peuvent s'approprier, être utilisés au sein même des établissements. C'est la même question pour les inspecteurs. Il faut que ça soit toute la communauté élargie qui s'intéresse à ces processus de professionnalisation, et ça oblige à être tout le temps dans l'information et la formation de ces collègues-là, partenaires, pour arriver à définir et stabiliser un Léa. Alors, la question que j'avais, mais que tu as répondu en partie, c'est quid du positionnement des chefs d'établissement dans les projets de Lawson Studies en Chine? Sont-ils, comme dans d'autres pays, directement à l'initiative? Est-ce que le recrutement des enseignants se fait directement avec ceux-ci dans le cahier des charges? Je pense que c'est des questions qui m'intéressent.
Oui, je voulais aller dans le sens de ce que tu viens de dire, Luc. Je trouve que c'est intéressant de poser cette question qui est peut-être un peu absente de la conclusion que Luc Trouche apporte, c'est-à-dire avec la question de la dimension émancipatrice. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que tu mets derrière cette idée d'émancipation, qui est une très belle idée, évidemment. Mais bon, voilà, ça dépend ce qu'on met derrière et comment on envisage le fonctionnement d'acteurs qui ont chacun leurs contraintes, qui ont des cultures différentes et qu'il est quelquefois difficile de faire travailler ensemble. Et pour revenir sur ce que disait Luc Ria, je pense que là, tout ce qu'on est en train de dire, ce qui est encore palpable et qu'à mon sens, à notre sens à tous, enfin à certains d'entre nous en tout cas, qui portons une certaine vision d'Eléa, il est très important de dépasser finalement une vision qui est insuffisamment co-construite. Je m'explique. Il me semble que les enseignants, et à travers les expériences étrangères qu'on a pu voir, ont des savoirs d'expérience et construisent une expertise de recherche, pour autant qu'ils aient le temps d'y être formés et de s'y exercer dans leurs établissements. Donc ça ne s'invente pas comme ça, hein, ça ne descend pas du ciel. D'où l'importance, évidemment, qu'il y ait cette formation à la recherche dans les SP. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans cette voie médiane que nous cherchons à travers ce beau dispositif d'Eléa, on tâtonne un peu. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu trop une idée que finalement, la recherche va arriver de façon, bon, je vais caricaturer, mais un peu trop transcendante. Voilà. Et il me semble que tout ce qu'on vient de dire, c'est important de creuser encore dans le sens de cette voie médiane, c'est-à-dire arriver à se faire accepter sur le terrain aussi, parce qu'il y aura une reconnaissance mutuelle suffisante et qu'on acceptera de partir vraiment des questionnements à la fois des enseignants, des chefs d'établissement et des corps d'inspection. J'en veux pour exemple, dernièrement, quelque chose que nous avons essayé de développer dans l'accompagnement, enfin dans le partenariat tel qu'il est nommé avec le ministère et avec la DGESCO. Je rappelle que l'EDRDIE est une porte d'entrée, mais finalement c'est l'ensemble de la DGESCO qui est concernée. Il me semble que dans le cas, par exemple, de ressources, comme les ressources magistères, on a fait du chemin. Parce que finalement, au départ, on était sur des propositions qui étaient soit une définition comme ça de la part de l'institution, il faut ça, définition quelquefois insuffisante, et puis arrivée de parcours magistères qui n'avaient pas été suffisamment en amont discuté et construit. Et du coup, le processus d'ajustement au fil de l'eau, si je puis dire, que nous avons eu, c'était celui, finalement, de mettre les différents partenaires de cette construction des parcours magistères en présence. Et de dire, finalement, ce qui est important, c'est que les chercheurs viennent présenter leurs projets, qu'ils puissent se mettre en dialogue avec des représentants de l'inspection et avec, évidemment, l'administration centrale, mais aussi, je dirais, en associant les administrations déconcentrées. Enfin bon. Donc, finalement, cette triade, ces trois piliers, me semblent extrêmement importants si on veut véritablement voir advenir un modèle de Léa qui me semble-t-il, enfin nous semble-t-il en tout cas, je crois, à un certain nombre d'entre nous, voilà, plus fertile.
Oui, alors il y avait quelqu'un là depuis le début et après Magdalena.
Donc Margaret Bento, je suis professeure en didactique des langues à l'Université Paris-Descartes et j'ai une question pour Katia. Tu as parlé de l'importance des manuels au Brésil, mais il me semble que ton propos portait surtout sur les manuels de mathématiques. Est-ce que cette importance est la même pour les autres disciplines ? Et je pense, moi, évidemment, à la didactique des langues, parce qu'effectivement, en France, dans certaines disciplines, les manuels sont très importants, très suivis par les enseignants, et dans d'autres, un peu en retrait.
Okay. Bon, je connais seulement la réalité des maths. Mais je sais qu'il y a le PNLD aussi pour les autres disciplines. Et oui. Et alors, je pense qu'il y a aussi l'importance de l'Emmanuel dans d'autres disciplines, mais je ne sais pas te dire quelle. Excusez-moi, mais je peux chercher après.
Oui. Moi, je voulais revenir juste sur le modèle Léa. Il y a quelque chose qui m'effraie. Quand j'ai reçu Luc la première fois, ma réaction n'était pas du tout anti-recherche ou anti-Luc, hein, entendons-nous bien. Ma réaction était, qu'est-ce que ça apporte à mon collectif ? Le modèle Léa, effectivement, c'est ce vers quoi nous tendons, c'est-à-dire que l'idée que dans un établissement comme Garcia Lorca, qui est REP+, qui est connu pour plein de choses, pas toujours très positif d'ailleurs, c'est bien dommage, l'idée c'est de voir comment on peut le proposer aux autres établissements du même type. Et là, moi, je mettrais un petit bémol. Et c'est pas seulement le chef d'établissement qui parle, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs établissements et qui, effectivement, j'ai été formatrice aussi. Et l'idée d'arriver quelque part ou de vouloir absolument reproduire et réutiliser les outils que d'aucuns ont confectionnés dans un contexte particulier, avec des enseignants particuliers, pour répondre à des attentes particulières, il va falloir à la fois être audacieux et dire, oui, effectivement, nous avons avancé sur telle et telle thématique et nous pouvons vous proposer un exemple de choses qui peuvent être faites. Mais il va falloir aussi faire attention de ne pas présenter cet exemple comme la solution pour tous les établissements. Et je me permets de le redire aujourd'hui parce qu'on a participé à plusieurs colloques dans le cadre de l'extension des REP+, puisque nous sommes REP+ préfigurateurs. Et j'ai été extrêmement gênée par l'attitude d'un certain nombre de mes collègues qui sont des gens avec qui je travaille au quotidien, mes collègues chefs d'établissement, qui, une fois que nous avions présenté avec mon IPR référent, José Ingoulald, et mon IEN de secteur, Thierry Duez, nous avions présenté, puisque l'accueil des nouveaux personnels faisait partie des axes que nous avions mis en avant pour cette préfiguration, et dans l'accueil des nouveaux personnels, il y avait le Léa. Et j'ai été extrêmement gênée quand mes collègues m'ont dit « À la rentrée, ça serait bien que sur les heures de pondération, mes profs viennent voir les tiens. » Non, non, il n'y a aucun intérêt. Parce que mes profs ont fonctionné avec mes élèves dans un contexte particulier, social, économique, de violence ou de non-violence, et on ne peut pas faire comme ça de copier-coller. Et je pense qu'il va falloir vraiment, vraiment être très, très précautionneux sur cette extension des modèles Léa, tout en allant effectivement les présenter à droite et à gauche.
Tu veux répondre ?
Oui, moi je répondrai volontiers sur trois points. D'abord, les ressources émancipatrices. Bon, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais moi je n'aurais pas parlé de ressources émancipatrices, je pense qu'elles ne sont pas en tant que telles. émancipatrices, parce qu'elles sont utilisées. Moi, je parlerai de travail documentaire, sur le travail que font les enseignants, du travail documentaire émancipateur. Et le travail documentaire émancipateur, je vais oser une définition, je dirais, c'est un travail dans lequel chacun se sent co-responsable d'un enseignement juste. Alors, après, on va discuter ce que c'est juste, mais il a cette force-là, de portée par un collectif et portée par une orientation de son travail. Bon, nous concevons quelque chose dont nous pensons qu'il est juste. Et c'est notre force vis-à-vis de l'institution. Voilà. C'est, disons, ou là, une démarche d'un métier vers une profession. Ou, bon. Ensuite, les critères de choix d'un Léa, ça répondra aussi, enfin, c'est une contribution à ce que tu as dit. C'est toujours comment choisir un Léa. Il y aura, je pense, de plus en plus de candidats. Enfin, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un des critères essentiels me semble être que la question portée par la communauté d'un établissement est une question déjà avancée. Elle est largement portée par l'établissement. Donc, ce n'est pas trois profs qui disent ben, on a envie de faire quelque chose. Mais déjà, ils ont fait partager cette nécessité assez largement autour d'eux. Pas partout, ce n'est jamais possible. Mais disons que, globalement, on sait que dans cet établissement, il y a un problème. Il est senti comme crucial par les enseignants et le pilotage de l'établissement. Et assez crucial pour avoir commencé déjà à avancer des solutions. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, il faut qu'il y ait une équipe de recherche qui arrive, et ça reprend ce qu'a dit Lucria, qui arrive pas seulement en disant, écoutez, nous sommes une équipe de recherche en sociologie, nous pensons pouvoir répondre à vos questions, mais qui puisse dire, votre question là, on l'a déjà traitée, c'est une préoccupation, on a déjà une certaine expertise dans le domaine. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'appliquer à vous, mais déjà, on peut partir sur une idée de gagnant-gagnant. L'établissement a une question construite, la recherche a une expertise dans ce domaine, et ensuite, bon, il faut travailler à formuler ce qu'on va travailler ensemble, etc. Mais vous voyez, il y a déjà cette première condition. Et puis, troisièmement, sur la transposition, bon, nous, chercheurs en éducation, on sait que la transposition, c'est toujours très compliqué, hein, pour les savoirs comme pour les dispositifs, et jamais... Il me semble que jamais on a dit que dans les Léas, on peut dire tiens, on va transposer ou venez voir comme nous sommes beaux. Comme nous sommes beaux. C'est toujours une construction. Oui, mais c'est donc assez simple, il me semble, de le répondre. Et en tout cas, nous, d'être très. Avoir une grande distance vis-à-vis de ça. Et on a parlé de constellation. Moi, je pense en effet que le moment est venu dans les Léas, qui sont assez mûrs, pour dire maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de significativement supérieur ? Et d'associer à cette réflexion la communauté de recherche en éducation. Et cette idée de constellation me semble forte, parce qu'il peut y avoir, bon, on pense toujours que ces idées sont fortes, mais il y a un Léa qui a une thématique. Si cette thématique, elle est portée par un Léa, on sait qu'elle est portée ailleurs. Et que donc, un certain nombre d'établissements qui ont le même problème puissent se réunir pour partager les solutions déjà avancées et trouver ensuite un modèle de fonctionnement de ce Léa et de sa proche couronne. Donc c'est à chaque fois un nouveau modèle, une nouvelle construction et de nouvelles avancées possibles. Et ça, il faut convaincre, je crois, que pour la recherche en éducation, bon, la DGESCO est déjà convaincue, mais la communauté de recherche, ceux qui sont les donneurs d'ordre de la recherche en éducation en France aujourd'hui, savent que là, il y a nécessité, il y a une opportunité, au moins de donner des moyens pour que le réseau passe à une phase plus forte.
Oui, bonjour à tous. Donc, Goulven Allé, je suis professeur dans un établissement. J'ai travaillé sur un Léa pendant 3 années. On arrive à une conclusion aujourd'hui. Et je voulais apporter une petite note d'optimisme. Voilà. Pour vous dire que oui, il faut que la recherche se rapproche des enseignants parce qu'aujourd'hui, on a pu voir nos pratiques se modifier sur le terrain et aussi celles de nos élèves. Et effectivement, un des objectifs recherchés, c'était de passer d'une classe à un groupe d'élèves chercheurs. Donc, je suis professeur d'éducation physique et sportive. Hein. Donc, vous imaginez bien, en éducation physique, on enseigne des techniques. Donc, comment enseigner les techniques ? En cherchant, voilà, avec des élèves. Donc, une grande question. Je vous invite tout à l'heure à passer sur, effectivement, sur l'atelier. Et vous verrez à travers, je pense que les tableaux qui diffusent nos idées... Hein, sont assez révélateurs de nos pratiques et de ce changement de posture de l'enseignant dans sa classe. Donc oui, il faut continuer dans ce sens-là. J'ai la chance aussi d'être formateur. Donc forcément, lorsque on a des outils qui nous semblent pertinents, ça donne envie de les diffuser. Voilà. Donc je ne manque pas une occasion de diffuser, bien sûr, les travaux du Léa Evacodis. Donc, et puis, je remercie Michel Granja pour le travail qu'il a pu fournir sur ces 3 années. Parce que c'était un pari, hein, quand même. C'est un pari au départ. Et on ne savait pas trop, finalement, quel effet on allait pouvoir mesurer, finalement. Donc, il y a déjà des effets, hein, ne serait-ce que sur des performances scolaires, donc purement scolaires. Donc, des élèves qui ont connu les pratiques d'enseignants et aujourd'hui qui ont passé le brevet. Et on a pu mesurer des écarts. Voilà. Voilà. Sinon, une petite question peut-être à Shangyang, parce que je suis très tenté par une expérimentation dans mon établissement, et notamment celle de partager et d'échanger des pratiques de classe, et avec un regard critique des enseignants. Donc la question que je vous pose, pensez-vous que cette formation en interne où on échangerait des pratiques est possible dans le système français, sachant qu'on nous accorde peu de temps, voire pas du tout, sur le travail collectif.
So, do you think it is possible to create the same kind of groups in France? It's been a very recent arrival in France for you, so it's a bit difficult, I suppose, but do you think it would be possible? But you must know that in France, teachers have to teach for 18 hours a week, and they don't have any time to devote to research, as in China. But still, do you think it would be possible? That's the question this colleague would like you to answer.
I think Professor Touche explained a little in her slides just now. It is quite different of the working culture between China and France. Maybe you think 10 hours for a teacher, it is not too much work for them. But I used to work in Chinese middle schools is very hard working for the teachers, because besides the classroom teaching, they have beaucoup shows to travail. And also to participate such research projects is obligation. Yes, it's an obligation. This is different, and this is the question. If you want to get promoted in your professional career, you need work very hard, and you need to participate such a research proposal, a real research project. In France, because up to now, I only arrived here for 2 months. But I have been in Sophie's classroom for 1 month. But I haven't seen her interactions with her other colleagues besides Claire. But I don't know does she work with the researchers in the IFE, also in Lea. But I think it is more related to the policies or obligations or job descriptions. Also the background of the culture, I think.
Donc, en fait, pour résumer, c'est vrai qu'elle dit qu'évidemment, la culture de travail, les façons de travailler sont extrêmement différentes entre la Chine et la France. Donc, elle a quand même précisé que les 10 heures d'enseignement qu'ils avaient à faire étaient associées à un tas d'autres tâches, donc c'était quand même déjà beaucoup de boulot. Mais ce qui quand même change énormément la donne, c'est que le fait de participer à ces groupes, c'est obligatoire. C'est dans leur obligation professionnelle. Et donc, on peut mettre en exergue sa conclusion, parce que je pense que c'est une conclusion extrêmement intéressante et à discuter avec nos partenaires. C'est que pour elle, ce serait possible en France, parce que si les professeurs... Il y avait cette forme d'obligation, mais associée justement à une volonté politique importante et une reconnaissance dans le temps de travail. Hein, et donc ça, c'est évidemment fondamental pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de projet. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'elle disait que ce qu'elle avait vu, elle avait vu peu d'interactions entre les collègues, mais simplement sur la base d'un exemple. Hein, mais on sait que ça renvoie quand même une réalité assez forte. Hein.
And to be completed, the schools, there are some competence between the schools. The schools need to compete with each other. And also for the teacher herself, after many years teaching experience, it is necessary for this teacher to summarize her teaching experience and up this experience into a serial level. Yes, because the teacher have plenty of teaching experience, and it's better. You can imagine if a researcher has enough experience, he can conduct her research based on very, very realistical problems.
Comment? D'abord, elle a précisé ce qui est important, c'est qu'il y a une compétition très forte entre les écoles. Donc, c'est à qui va performer le mieux. Donc, ça aussi, ça change aussi un peu la donne. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, elle disait aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années d'implication dans ce genre de projet, les professeurs sont tenus de produire. Alors, je n'ai pas très bien compris. What do you mean by serial? What do they have to produce by at the end of...
Theoretical.
Oh, sorry. Oui. Pardon, merci pour à Michel. Je n'avais pas compris le mot theoretical. Sorry for this. Donc, ils ont à produire quelque chose d'un peu un retour réflexif, en fait, sur leur pratique. Donc, ça fait partie aussi des obligations. Donc, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Donc, voilà. Merci. Puis, je crois que Jeanne veut conclure, si on veut être dans le temps.
Oui, je suis désolée. C'est bon. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non.
On peut recommencer.
Merci beaucoup à vous trois. Peut-être on peut encore leur dire merci. Donc, le forum vous attend, mais je voulais donner peut-être 2 minutes la parole à Nicolas pour qu'il vous parle, d'abord qu'il puisse vous parler.